Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Quand il s'élève, ses ennemis sont dispersés. La Bible dit que quand il ouvre, qui peut fermer? Et quand il ferme, qui peut ouvrir? Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait s'écrier, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, merci. Merci de savoir que celui sur qui nous appuyons n'a jamais connu la défaite. Merci de savoir que celui sur qui nous appuyons est un héros fort et puissant. Quand il s'élève, ses ennemis sont dispersés. C'est pour cela que tu pouvais dire à ton peuple, tes ennemis pourront venir par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept. Tu les rassureras en disant la guerre, ils te feront, mais ils ne te vaincront pas. Qu'avons-nous à craindre avec un tel Dieu? 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 Alléluia. Seigneur, merci pour l'assurance que nous avons auprès de toi. Merci de savoir que tu es notre refuge, notre appui et notre bouclier. Aucune flèche, aucun trait enflammé de l'ennemi ne peut nous atteindre. Tu es notre bouclier. Tu prends les coups sur toi afin que nous ne soyons pas atteints. Et même ces coups que tu prends sur toi ne peuvent rien te faire parce que tu es notre Dieu. Bénis cette heure qui va suivre. Bénis ta parole qui sortira de la bouche d'un homme en vrai qui a besoin de toi et de ta grâce. Fais de lui un canal d'édification pour ces six grands peuples à qui tu veux faire beaucoup du bien. Fais-les au travers de ces moments. C'est en ton nom, Christ, que nous prions ainsi. Amen. Ça vous dérangerait d'acclamer très fort le Seigneur avec moi. Il est digne de louange. Que son nom soit béni. Plus les années passent, plus je me réjouis d'avoir choisi ces dieux. Que dis-je? Je me réjouis que ces dieux m'aient choisi. Je me réjouis du jour où il m'a rencontré. Je me réjouis du jour où j'ai rejoint son équipe. Je me réjouis du jour où il est devenu mon partenaire. Désormais, dans mes combats, je ne suis plus seul. Il est à mes côtés. Et quand vient le moment où je peux trembler à la vue d'un ennemi aussi géant, aussi fort, je me retourne vers lui. Je dis, grand frère, qu'est-ce que tu en penses? Et il dit, ce combat n'est pas à toi, c'est mon combat. Alléluia. C'est bon de savoir qu'on a un appui fort, un appui puissant, un appui inébranlable. Ne craignez rien, il est celui qui s'élève les derniers. La Bible dit, il brise l'arc de notre ennemi. La Bible dit, il fait cesser les combats. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de porter des amulettes autour des reins. Nous n'avons pas besoin de je ne sais quel autre appui. Je me souviens quand nous étions tout petits et qu'il y avait quelques attaques démoniaques, ma famille ne connaissait pas le Seigneur. Ma mère se levait en pleine nuit, elle parlait en lingala, elle disait, je me demande qu'est-ce que les nombrils ont à faire dans des choses spirituelles. Mais depuis que nous l'avons connu, nous n'avons pas à citer les nombrils. Il est fort, il est puissant, il est capable, c'est lui sur qui nous nous appuyons. Alléluia. J'aimerais vous inviter à lire deux textes dans la parole de Dieu ce matin. D'abord Esther chapitre 5, versets 9 à 14. Et puis Esther chapitre 6, versets 4 à 12. Esther chapitre 5, versets 9 à 14. Et puis Esther chapitre 6, versets 4 à 12. Nous lisons la première portion, 5e chapitre du livre d'Esther, partant du verset 9. Aman sortit de ses jours-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. Et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Combien s'asseoir à côté des grands fait du bien à certaines personnes. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché les Juifs assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec les rois. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Esther chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 12. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Et Aman entra et le roi dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi que le roi voudra-t-il honorer? Haute opinion de lui-même. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et les chevals à l'un des principaux du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché les Juifs. J'aurais voulu être là et voir la tête d'Aman, qui est assis à la porte du roi, et j'aime la fin, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et les chevals, et il revêtit Mardoché, et il les promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. J'aurais voulu entendre les tons de sa voix. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé, et la tête voilée. Alléluia. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu puissant, ce Dieu capable d'utiliser des méthodes incompréhensibles pour nous pour résoudre les problèmes qui nous semblent des fois difficiles à résoudre. C'est Dieu qui est capable, partant de peu, faire beaucoup. C'est Dieu qui est capable, des fois, partant de rien, accomplir de grandes choses. C'est Dieu que la fois dernière, nous avons dit qu'il était un grand stratège. C'est pourquoi en ce jour, nous voulons parler sur le thème, le Dieu de Mardoché. Le Dieu de Mardoché. Pourquoi le Dieu de Mardoché? Le Dieu de Mardoché parce que, dans l'histoire qui fait l'objet de notre étude, Mardoché représente les faibles. Mardoché représente les sans-appui. Mardoché représente ceux qui n'ont aucune bouche pour parler en leur faveur. Mardoché représente ceux qui n'ont aucun appui quelque part. Mardoché représente ceux qui n'ont pas quelques connaissances, quelques appuis humains, qui peuvent rentrer dans quelques bureaux, à quelque endroit où de grandes décisions sont prises comme avocats et parler en leur faveur. Mardoché, c'est le type de personnes qui n'ont que Dieu comme secours, qui n'ont que Dieu comme appui. Et s'il arrivait par malheur que ce Dieu ne faisait rien, les Mardoché peuvent être détruits. Les Mardoché peuvent être éliminés. Les Mardoché peuvent être écrasés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour tous les Mardoché. Il y a un Dieu des Mardoché. Il y a un Dieu qui soutient les sans-appui. Il y a un Dieu qui soutient ceux qui n'ont pas d'avocat. Il y a un Dieu qui sait se mettre du côté des faibles, de ceux qui n'ont pas de carte de visite, de ceux qui n'ont pas un arrière-plan fort. Mardoché, comme je disais, est un type de seul et de ceux qui n'ont rien que Dieu comme appui, de ceux qui n'ont leur regard fixé et tourné que vers Dieu. Qui était Mardoché? Mardoché était un Benjamite, déporté en l'an 597 ou 97 avec le roi Jéconia, déporté à Babylone quand le roi Nebuchadnezzar est venu envahir le pays. Et là, au pays de sa déportation, Mardoché prit en charge Esther, fille de son oncle, et ils habitaient la capitale qui était appelée Suse. Esther chapitre 2, verset 5 à 7 nous donne quelques détails. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shéméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Et il arriva que là, au pays de leur déportation, quelque chose se passa. Celle qui était reine, c'est-à-dire épouse du roi, Vasti, elle s'appelait, commit un acte infâme, un acte qu'il ne fallait pas poser à un tel degré, à un tel niveau de la gestion du pays, de telle sorte que le roi décida de se séparer de la reine. Donc, si je peux même parler ainsi, le poste des reines ou la place des reines était à pourvoir. Et le roi a demandé que l'on puisse faire une sorte de concours de beauté, que l'on puisse prendre les plus belles jeunes filles du pays, afin qu'un choix puisse être fait. Je vous garde des détails. Toujours est-il que finalement, Esther fut choisie, toute étrangère qu'elle était. Elle fut choisie. Mais voilà, quand Esther avait été choisie, Esther avait fait une chose, elle n'avait pas révélé ses origines. Esther chapitre 2, verset 10, dit que Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Mais voilà que se pose un problème avec l'entrée en scène d'un personnage qui va devenir le personnage presque central de notre histoire. Aman, la Gagite, il s'appelait. On l'appelle la Gagite parce qu'il était origine d'Amalek. Donc il était Amalécite. Donc il faut bien voir les décors de cette histoire et Mardochée qui aura plus tard des problèmes avec Aman. Et Aman lui-même, les deux étaient des étrangers. L'un d'origine juive, l'autre d'origine Amalécite. Les deux se sont retrouvés. Et là, à Suse, dans la capitale de ce qui était l'un des royaumes les plus forts de l'époque. Esther chapitre 3, du 1er au 4e verset, nous dit « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédata, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosterner devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car leur avait-il dit, il était juif. Aman était levé en dignité. Et le roi dit, à cause de cela, les gens sont appelés à fléchir les genoux devant toi et à se prosterner. J'aimerais bien que nous puissions comprendre le contexte. Ce n'était pas simplement un petit signe de respect. C'était quasiment une sorte de déification. Parce qu'à l'époque, le roi et tous ceux qui étaient levés en dignité, on leur accordait pratiquement la place de Dieu. Et Mardochée dit, je suis juif, c'est vrai. C'est Dieu que je sers, nous a apparemment abandonnés. Nous a entre guillemets pas soutenu. Et à cause de cela, nous avons été emmenés en captivité ici. Mais malgré cela, je resterai accroché à ce Dieu. Je le servirai quoi qu'il arrive. Je ne peux servir que Yahweh et Yahweh seul. Je ne peux adorer que Yahweh et Yahweh seul. Jamais je ne vais me prosterner devant un homme aussi grand soit-il élevé en dignité. Mardochée dit, je ne veux pas le faire. Je ne le ferai jamais. Et à cause de cela, Aman entre dans une grande colère. En général, les pouvoirs, l'élévation ou quelques attributs qui vous placent au-dessus des autres sont toujours un vrai test du caractère. Il y a des gens, quand ils n'ont rien, vous avez l'impression qu'ils sont les personnes les plus vertueuses au monde. Juste à ce qu'on leur donne quelques parcelles de pouvoir. Juste à ce qu'on leur donne quelques autorités. Et vous voyez des tares qui étaient cachés ressortir. Derrière l'homme doux s'est caché un géant dictateur, mais qui avait besoin des circonstances. Qu'est-ce que le pouvoir a fait de vous? Qu'est-ce que l'élévation a fait de vous? Il y a certains, quand ils sont élevés, c'est un mépris total des autres. Ils appellent les autres avec des diminutifs K. Kamutoyo. Ils vous regardent comme de presque rien. Oh, mais n'oubliez pas, ce que vous l'êtes devenu. Quelqu'un a dit, quand vous montez par l'ascenseur, faites attention, soyez en règle avec ceux qui sont restés en bas. Parce que l'ascenseur finit des fois par redescendre. Et vous savez, ceux qui sont restés en bas n'ont aucun problème, ils sont habitués à cet endroit. C'est vous qui montez, Quand vous redescendez, vous avez des problèmes. Aman, il a le pouvoir, lui qui hier n'avait rien. Il a le pouvoir et il veut le pouvoir absolu. Presque tous fléchissent les genoux devant lui. Le seul Mardoché ne le fait pas. Il veut tout. Et le fait que le seul Mardoché n'obéit pas, ça le dérange. Il a très mal au fond de lui. La Bible dit ceci. À cause de tout ce qui s'est passé, Aman rentra dans une grande colère. Verset 5. Et Aman, du chapitre 3. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le peuple, dans tous les royaumes d'Assuérus. Le verset 7 ajoute, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta les purs, c'est-à-dire les sorts devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observa point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur problème? Quel est leur crime? Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le verset 10, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedat à la Gagite, ennemi des gens. Et cela était un symbole pour dire, vas-y, partout les gens verront cet anneau, ils vont t'obéir. Cela veut dire que je t'ai délégué mon pouvoir. Quand tu présenteras simplement cet anneau, tous seront appelés à faire ce que toi tu veux. Je n'ai pas besoin d'être avec toi à tes côtés pour affirmer que tu viens en mon nom. Cet anneau parle en mon nom. Verset 10, je relis encore, le roi ôta son anneau de la main et les remit à Aman, fils d'Amedat à la Gagite, ennemi des Juifs. Et écoutez le verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Un pouvoir absolu. Combien le pouvoir, ça fait du bien aux gens. Détenir quelques parcelles de responsabilité. Avoir quelques pouvoirs à quelques niveaux. Un homme dit ça à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas à cause de mes relations que j'ai la capacité de te faire disparaître. Il suffit que je claque mes doigts. Tu n'es plus là. Homme, il y a un Dieu au-dessus de toi. Combien certaines personnes, policiers ou militaires, parce qu'ils détiennent une arme entre les mains, ils ont la sensation de l'invincibilité. À Kinshasa, on dit, celui qui porte une arme, on ne lui demande pas son âge. Parce qu'il a toujours raison. Même s'il a 1m44 et toi, tu en as deux. Quand il a une arme, il devient grand Mokonzi, chef. Fais-en ce que tu voudras. Combien Aman devait se sentir bien. J'ai les entrées auprès du roi. Personne n'a l'intimité du roi comme moi. Et puis en plus, il me donne les pleins pouvoirs, les pouvoirs absolus. Verset 12, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit, suivant ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes, vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Versets 14 et 15, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ces jours-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. On décide au premier mois qu'au 12e mois, le 13e jour, cet édit sera mis en exécution. Entre le moment où l'édit a été publié et le seul jour où il est demandé que l'on puisse couper la tête de tous les Juifs partout où ils se trouveraient, 11 mois. C'est comme un compte à rebours qui a commencé. Mais dire un compte à rebours, c'est trop peu, car tout est fixé. Comme le roi a mis son anneau et qu'il a posé dessus, cela veut dire que c'est irrévocable. Mardochée sait que c'est lui qui a la base. Mardochée sait que c'est simplement parce que j'ai obéi à Dieu. C'est simplement parce que je marche selon les principes de ce Dieu et que je n'ai pas voulu fléchir les genoux devant cet homme que non seulement moi, mais mon peuple aussi, bientôt, nous allons périr. Et cet homme qui est à la base de cette décision, cet homme, il a des entrées auprès du roi. Il a l'oreille et le cœur du roi. Il sait voir le roi à tout instant. Il sait lui parler. Mais de l'autre côté, Mardochée a quelqu'un. C'est quelqu'un que Mardochée a, c'est Esther. Mais voilà, il se pose un problème. C'est que Mardochée avait dit à Esther, ne présente pas ton identité. Donc, deux choses se passent. Premièrement, Esther ne peut venir voir Mardochée. Parce que si elle veut voir Mardochée, elle sera obligée de faire sortir son identité. Et qui sait les conséquences qui peuvent arriver. Et même Mardochée lui-même, qui a élevé Esther, qui l'a fait grandir, et voilà, elle est devenue reine. Elle est dans une position d'autorité. Il suffit que je lui dise un mot, elle peut changer les choses. Je ne peux m'approcher. Et même plus tard, nous voyons Mardochée qui envoie un message. On sent comme s'il est presque obligé de l'envoyer, mais en même temps, on sent que Mardochée n'a pas ses yeux fixés sur un homme. Il dit, allez dire à Esther, voilà ce qui arrive. Qui sait si ce n'est pour des temps comme ceux-ci que Dieu l'a placé là-bas. Elle est appelée à faire quelque chose, mais là ne s'arrête pas la déclaration de Mardochée. Mardochée dit, si tu te tais maintenant, le salut viendra de quelque part. Mardochée a l'assurance, Dieu n'a pas qu'Esther. Le Dieu de Mardochée, il dit, mon Dieu peut se servir soit de toi, soit de n'importe qui. Il a plus qu'un moyen. Il a toutes sortes de moyens qu'il peut utiliser. Aman est en position de force. Non seulement qu'il a l'oreille et le cœur du roi, en plus, comme je le disais, il a des entrées dans la cour royale. En plus, le fait que le roi ôta son anneau de sa main et le donna à cet homme, lui donna plein pouvoir. Il pouvait se promener partout en s'étendant avec les attributs que seul le roi détenait et qui lui avait cédé pour un temps. Si Aman est fort, très fort, et en position de force, Mardochée et son peuple sont faibles. Ils ne savent que faire, comme cela arrive souvent au Mardochée que nous sommes. Devant un grand problème, nous avons l'impression que nous sommes le dos contre le mur. Celui qui nous harasse, celui qui veut notre destruction semble être fort. Quand on regarde les armes en présence, on dit il n'y a pas match. On dit que tout est perdu d'avance. Mais j'aimerais insister, il y a un Dieu de Mardochée. Il y a un Dieu de faible. Il y a un Dieu de sans appui. Combien de fois nous nous retrouvons sans force, sans appui, sans argument, désirant que les choses changent, mais n'avons aucune chose pour faire que les choses puissent changer. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12, la Bible nous parle de la prière de Josaphat. Cet homme qui était roi de Juda, attaqué par 3 nations qui se sont liguées contre son peuple. Écoutez la prière qu'il fait, une prière sincère. Je puis dire cette prière, il m'est arrivé de la faire. Il a dit, oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force, il les reconnaît. Sans force, sans appui, sans argument. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et il ajoute encore une chose, il dit, et nous ne savons que faire. Mais j'aime comment il termine, mais nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont sur toi. Église de la Borne, j'aimerais vous dire, là où tout a échoué, la prière est réussie. Oh, il y a peut-être un homme, une femme, trop logique, trop cartésien, qui peut dire, qu'est-ce qu'elle fait de se mettre à genoux, d'avoir les yeux ouverts ou fermés, de lever les mains, de prononcer quelques paroles. Qu'est-ce que cela peut avoir comme incidence ou influence dans le cours des événements? Je puis vous le dire, je l'ai vu dans ma vie. La prière change les circonstances. La prière renverse les circonstances. Quand nous prions, nous amenons les bras du Dieu tout-puissant, du Dieu fort, du Dieu capable à se mouvoir. Et je l'ai vu plus d'une fois. Je l'ai vu faire des choses qui m'ont laissé bouche bée. Je l'ai vu accomplir des choses et je puis dire, ça c'est le doigt de Dieu. J'aimerais le dire à quelqu'un, je ne sais quelle situation tu connais. quel problème que tu connais, soit individuellement, soit collectivement en tant que peuple, ou je ne sais quoi. Si Dieu est de votre côté, il s'élèvera le dernier. La Bible dit, il est celui qui brise l'arc. Il est celui qui réduit à néant les armes de notre ennemi. Nous ne savons que faire. Telles sont les paroles de Josaphat, mais telles pouvaient aussi être les paroles de Mardoché. Et non seulement que la sentence de mort est déjà prononcée et que la date est connue, mais aussi les comptes à rebours a commencé. Mais voilà, Aman, dans son excès de zèle, sait que Mardoché va dans tout le camp mourir avec les autres juifs. Mais il est dérangé par une chose. Chaque fois qu'il passe, tout le monde se soumet et Mardoché ne le fait pas. Bon, c'est vrai, les comptes à rebours a déjà commencé. Dans 11 mois, il va mourir. Mais entre-temps, ce qu'il fait m'énerve. Il me déshonore aux yeux des autres. Qui sait, cela peut avoir un effet d'entraînement. Pousser les autres qui les voient à maintes reprises faire comme ça et nous voir, ne rien faire, ne pas réagir, faudra peut-être l'éliminer. Esther chapitre 5, verset 9 au verset 14 que nous avons lu nous dit « Alors que Aman sortait d'une réception de chez les rois où ils avaient été mangés, écoutez ce que la Bible dit. Aman sortit de ce jour-là joyeux et le cœur content parce qu'il venait de manger avec le roi. Pensez-y donc. Il n'y avait que le roi, la reine et lui. Il était en présence des deux sommités du royaume. Et lui, la Malécite, lui, la Gagite, il avait le privilège d'être avec eux, de discuter avec les sommets du pays. Combien de gens ils aiment ça? Quand ils rentrent, ils disent, j'ai dîné avec... Tu sais, moi et X, nous nous voyons comme ça. Moi, je les vois sans rendez-vous. Si tu veux simplement les voir, passe par moi. D'autres même cherchent des relations de parenté inexplicables. Vous êtes peut-être du même village, non, c'est les cousins du cousin de mon cousin. Simplement pour se prévaloir d'une certaine intimité. Et voilà cet homme qui venait de manger avec les hommes les plus puissants du pays. Il sort, il a tout, mais il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Quand il sort, la Bible dit, mais lorsqu'il vit Mardoché à la porte du roi, qui ne se levait, ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Toute sa joie s'envole. Simplement parce que quelqu'un ne fait pas de courbettes. Et il prononce des paroles qui m'étonnent. Écoutez ce que la Bible dit. D'abord le verset 10. Il sut se contenir et il alla chez lui. Puis, il envoya chercher ses armées et Zérek sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Pensez-y donc. J'ai mangé avec lui en face. Je sais vous dire comment il marche. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais verset 13, il dit, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché les Juifs assis à la porte du roi. Il y a une sentence, il y a un édit. Dans tout le cas, bientôt il va mourir. Mais Aman souffre dans son cœur. Il fait de la destruction de Mardoché son but. Le verset qui suit ajoute, Zérek, sa femme, et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, plus de 20 mètres. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. J'aimerais vous dire, vous qui avez l'avantage d'être assis à côté du roi, quel genre de conseils vous leur donnez? Il y a des gens, comme on dit, qui sont plus royalistes que le roi. En tout cas, ce qui n'est pas le bac, nous avons une fois à Katanamoto. Les chefs n'y ont même pas pensé. Aman est vexé. Aman a mal, certes, mais il ne pense pas à ces choses. Quel conseil, en plus d'une femme, préparer une potence de plus de 20 mètres. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Cette femme sait. Aman a des entrées chez le roi. Le roi l'écoute. Et même alors qu'Aman est en train de manger chez lui à la maison, sur son doigt, il a l'anneau, symbole de la délégation des pouvoirs. S'il peut te donner ça, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Du reste, il t'a dit, je donne ce peuple entre tes mains. Mais ce qui me fait mal, la femme ajoute, demande qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Sa joie est liée à la disparition de Mardoché. Son bonheur est lié à la disparition d'un homme qui va devenir sa femme, ses enfants, qu'importe. J'aimerais simplement me réveiller un matin et voir cette potence de plus de 20 mètres et voir Mardoché pendant sa langue sortant jusqu'au nombril. Et je regarderai, je parlerai à ces cadavres, même si les cadavres n'entendent pas. T'as vu jusqu'où l'impolitesse t'a amené? T'as vu? La fin du verset dit ceci, c'est ta vie, plus à Aman. Et ce qui m'étonne, c'est la dernière phrase. La Bible dit, et il prépara le... J'aurais été à sa place, j'attendrais d'abord d'obtenir l'aval du roi. Roi, en tout cas, ce type, il me dérange. Encore, je vais préparer les bois. Mais lui, il prépare les bois parce qu'il sait ce qu'il représente. Y a-t-il deux pays qui mangent avec les rois comme moi? Y a-t-il quelqu'un que les rois écoutent comme, dans tout le cas, préparé déjà? Et la potence est préparée. Le Dieu de Mardoché est silencieux, mais le Dieu de Mardoché voit. Le Dieu de Mardoché ne dit rien, mais le Dieu de Mardoché voit. Oh, j'aime de savoir que notre Dieu, la Bible dit, l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers pour lui. Alléluia. Aman fait de Mardoché son ennemi numéro un. Il fait de la disparition de Mardoché la chose qu'il désire le plus. Il veut que Mardoché disparaisse. Dans la vie, il arrive que des gens nous prennent subitement en inimitié, qui nous haïssent et fassent de notre chute, de notre perte et de notre abaissement leur objectif. Il arrive des fois les gens vous haïssent, vous essayez de faire une sorte d'anamnèse, de faire un retour en vous-même, vous vous demandez, mais cette personne, Aïnakangaïpona, Nini, Nasalaye, Nini. Aussi loin que va amener votre imagination, vous ne trouvez pas non seulement une raison pour laquelle cette personne peut vous haïr, mais surtout vous haïr à un tel degré. Il y a des haines quelquefois gratuites. J'ai entendu sortir de cet enclos un jour un jeune homme qui parla à son ami d'un autre jeune homme, chômeur autrefois, et qui avait eu un travail. Voilà, Dieu l'a béni, il a eu un véhicule. Et voilà, il parla à son ami. Fier. Et ça, c'est l'accident tout le monde. Oh! Et le comble de tout, c'est que des fois, ce sont des gens qui sont tout autour de vous. Ils font semblant de vous aimer, mais derrière, ils vous poignardent. L'hypocrisie. Quelqu'un m'a dit, je suis rentré un jour, quelqu'un qui était toujours proche de moi, je suis rentré chez les chefs. Les chefs m'ont montré une lettre d'accusation. Tout était faux, calomnie. Et à la base, cette personne. Et quand vous rencontrez, alléluia. Pourquoi une telle haine? Qu'est-ce que j'étais réellement fait? Ils font de la chute des autres leur joie. Ils veulent apprendre un jour. Ah non. On a attrapé Roland Dalo à Massine avec une jeune fille. Nayebaka. La Roland Dalo. J'ai senti déjà les symptômes. Les gens comme nous ont chômé avec la sainteté, vous ne nous voyez pas. Mais j'aimerais dire pour les Mardochés, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Je n'ai pas demandé d'avoir ce poste au travail. Je n'ai pas demandé d'avoir cette mission de service. Je n'ai pas demandé que les chefs m'aiment plus que tout le monde. Quand il y a telle mission, il ne choisit que moi. Allez demander au chef Bokobo Mangaï. Pamba. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il est en train de militer? Non, il doit perdre ce poste. J'entendais quelqu'un dire, si fona kota bonganga na kota. Ah, si de telles choses peuvent être citées, que ce soit dans le monde, mais pas dans l'église. J'aime beaucoup David. Le jour où il a appris que Jonathan et Saül étaient morts, c'était certes ses ennemis. Ils voulaient sa destruction. Alors que quelqu'un venait lui annoncer cette nouvelle avec joie, il dit, non, n'en parle pas. Les Philistins l'apprendront et ils vont se réjouir. Il ne veut pas faire du mal des autres un sujet de choix. Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Dans 1 Samuel chapitre 18, versets 8 à 9, la Bible nous parle de la réaction de Saül. Lorsque David est rentré de l'expédition contre les Philistins, David a vaincu non seulement Goliath, mais il a sauvegardé toute une nation. Et David rentre. Les cantiques qu'il est en train de chanter, il ne l'a ni composé, ni fait la répartition des voix à la chorale. Et lui et Saül découvrent les cantiques. La première partie, sûrement, fait du bien à l'ego de Saül. Saül a tué ses 1000, jusque-là, ça va. Mais quand on ajoute la seconde partie, ça pose problème. David a tué ses... J'aimerais vous dire, si on avait chanté l'inverse, il n'y aurait pas eu de problème. Si on avait dit, Saül a tué ses 2000, et David ses 1000, il n'y aurait pas eu de problème. En général, l'homme aime avoir tout pour lui. Si l'on donne à l'autre, qu'on lui donne, mais pas plus que moi. Et nous voyons cela dès les berceaux. J'en parlais au premier culte. J'ai vu dans une famille un petit garçon de 12 ou 13 ans. Il y a un nouveau bébé qui venait de naître. Et il allait avec une aiguille. Il allait pincer les bébés. Un autre, un tout petit, a demandé à ses parents. Il dit, papa, je connais Brouté Kagelor. Avant qu'il ne vienne, tout était centré sur moi. Quand je criais, nia! On répondait directement. Mais depuis qu'il existe, depuis qu'il est là, je fais partie du décor. Il doit disparaître. Aman, tu vas me tuer pour rien. Je t'ai rien fait. Et nous parlions de Saül. Il prit en haine. David, la Bible dit, il fut très irrité. Et cela lui déplut. Il regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là. La Bible nous montre même que Saül devient un spécialiste d'une chose. Il prenait des lances qu'il expédiait contre David pour les détruire. Quel est le mal que David avait eu à faire? Aucun. Pourquoi tu fais de moi ton ennemi? Pourquoi tu lances ces choses pour m'ôter la vie? Qu'ai-je réellement fait de mal qui puisse faire que je mérite le sort que tu penses que je... Comme je le disais, il y a des fois nous restons, on dit, pourquoi telle personne ne m'aime pas? Là en famille, là au travail, là dans les ministères, là dans la chorale, là, pourquoi? Pourquoi elle aime toujours mettre des bâtons dans mes roues? Pourquoi? Pourquoi la personne est-elle prête à aller même jusqu'à dire des faussetés pourvu que je sois? Dans 1 Samuel chapitre 20, versets 30 à 33, la Bible nous parle de la colère de Saül contre Jonathan. La Bible nous dit, alors, la colère de Jonathan s'enflamma. Pourquoi? La colère plutôt de Saül s'enflamma. Parce que Jonathan avait aidé David en s'enfuir. Il s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe. Et il ajoute, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour la royauté. Et maintenant, envoie les chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Parole sortant de la bouche de Saül. Qu'a fait David? Mais j'aime Jonathan. Jonathan, c'est le type de personne intègre, juste, qui ne voit pas des choses de manière sentimentale, qui n'a pas de parti pris. Écoutez ce que la suite du verset dit. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? La suite dit, et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Parce qu'il prit Jonathan comme l'avocat de David. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Qu'est-ce que réellement Mardoché a fait de mal à Aman? Et même s'il y a un mal, n'est-ce pas que tous les pays fléchissent les genoux devant toi? Si je suis le seul à ne pas le faire à cause de Yahweh, pourquoi tu veux me détruire? Dans Psaume 35, versets 1 à 7, nous voyons David faire une prière. Cette prière, elle sort certes de la bouche de David, mais elle pouvait aussi sortir de la bouche de Mardoché. Écoutez cette belle prière que David fait. Psaume 35, partant du verset 1er. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et les grands boucliers. Et lève-toi pour me secourir. Au verset 3, il dit, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte. Ils réfléchissent sur ma destruction. Ils passent leur temps à fomenter des choses pour que je ne sois plus. Au verset 7, le psalmiste dit, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Il dit, je ne vois pas le pourquoi ils veulent ma destruction. Toujours le psalmiste ajoute, partant du verset 19, il dit, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. C'est-à-dire ceux qui sont mes ennemis sans que je sache pourquoi. Seigneur, ne leur donne pas la joie de me voir être écrasé. Ne leur donne pas ce plaisir de me voir être détruit. Il dit, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Mais il dit au verset 22, Éternel, tu les vois et ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Je me réencourage. Partant du verset 20, la partie B, jusqu'au verset 23. Le psalmiste dit ceci, ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils ne m'aiment pas, mais je ne vois pas les pourquoi. Mais ils sont nombreux. Ils me rendent les mal pour les biens. Ils sont mes adversaires parce que je recherche les biens. Et il ajoute, ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Et j'aime ce qu'il dit au verset 23. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, de mon salut. Toujours les psalmistes, psaume 69, versets 4 et 5. Le psalmiste dit ceci, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, se consume, tandis que je regarde vers mon Dieu. Écoutez le verset 5, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Et non seulement qu'ils sont nombreux, le psalmiste ajoute, ils sont puissants, c'est-à-dire ils ont des armes, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je les restitue. Psaume 109, versets 3 et 4. Et ça, j'aime particulièrement. Il dit au verset 3, ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Ajoute au verset 4, tandis que je les aime, voilà, ils sont mes adversaires. Et j'aime la fin. Mais moi, j'ai recours à la prière. Alléluia. Ils veulent ma destruction. Ils veulent que je ne sois plus. Mais moi, j'ai recours à la prière. Et comme je le disais, non seulement qu'Aman s'est en position de force, mais en plus, il sait qu'il a l'anneau du roi entre ses mains et que le roi ne lui refuse rien. Dans Esther chapitre 5, verset 14, il dit, la Bible dit, cet avis plut à Aman et il fit préparer les bois. La Bible dit, il fit faire la potence. Peut-être qu'il a regardé, s'imaginant déjà demain, voir Mardoché son adversaire, Mardoché son ennemi, Mardoché c'est lui qui, entre guillemets, les ridicules, être pendu. Le roi ne m'a rien refusé. Personne n'a des entrées auprès du roi comme moi. Donc demain, ce que je désire va se réaliser. Mais entre-temps, quelque chose se passe. Mardoché lui croit que Dieu seul peut travailler. Dieu seul peut se servir de qui il veut pour accomplir ce qu'il veut. Et dans Esther chapitre 6, versets 1 à 2, nous voyons des choses merveilleuses qui se passent. Des choses qui se passent sans le secours d'une main, sans une intervention quelconque, sans que Mardoché ait pu jouer des coudes, sans que Mardoché ait pu faire usage de quelques relations. Mais Mardoché s'est simplement appuyé sur son Dieu. Et deux choses extraordinaire se passe. La Bible parle premièrement en disant, c'est une nuit-là. Aman prépare la potence. Il a reçu les conseils. Il dit, demain je me présenterai. Et puisqu'il ne me refuse rien, j'ai même encore à partager un repas. Demain, j'aurai le plaisir de voir Mardoché être pendu. Comme je disais, deux choses se passent. Premièrement, la physiologie du roi fonctionne à l'envers. Son horloge biologique est désarticulée. À l'heure où normalement les paupières devaient être lourdes, pesées et pousser tout homme normal au sommeil après une journée de dur labeur, ses paupières restent à leur place. Il est frappé d'insomnie. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Le roi va au lit, se couvre, le sommeil ne vient pas. Il cherche à lire, peut-être en lisant quelque chose, ça va partir, rien ne part. Parce que le Dieu de Mardoché est à l'œuvre. Et deuxième chose qui se passe, le roi veut passer son temps. Il pouvait jouer aux dames, il pouvait faire je ne sais quelle autre chose comme distraction. Mais il demande à ceux qui sont tout autour de lui, il dit, amenez-moi les livres des annales. Amenez-moi les chroniques. Là où l'on garde les souvenirs de tout ce que les gens ont fait. Et on a commencé à lire, tel a fait telle chose. Tel a fait telle chose. Et la Bible dit, ils arrivèrent à un certain endroit. Écoutez ce que le verset 2 dit. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des Bigtan et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi ou les monarques de l'époque, ils avaient toujours l'habitude, quand quelqu'un le sauvait de la mort, ils rétribuaient, ils élevaient. Mais nous ne savons pas pourquoi. Mardoché a mené un tel complot à la connaissance du roi, aucune récompense. Laissez-moi vous dire, il y a des choses que Dieu ne permet pas à un certain moment, parce qu'il sait que le meilleur moment sera plus tard. Mardoché pouvait se plaindre. Ah! Pour l'homme, on a salé la roi. Ah! Combien les gens sont ingrats. Sans moi, est-ce qu'il sera encore sur le trône? Mardoché, tais-toi. Le maître des temps et des circonstances sait ce qu'il fait. Alléluia. Le roi des insomnies. Et subitement, on est en train de lire et l'on retrouve ces hauts faits attachés à la vie de Mardoché. Laissez-moi vous dire, Dieu peut travailler pour vous sans vous. Alléluia. Il y a des conseils où vous ne pouvez pas être. Mais si simplement vous pouvez vous accrocher à Dieu, Dieu peut susciter un avocat là où vous n'êtes pas. J'aime beaucoup quand ceux qui voulaient détruire l'église primitive, ils se réunissent, ils disent, il faut tuer tous ceux de l'église primitive. Un homme qui n'avait reçu ni argent, ni un petit montant, Gamaliel, il s'élève. Il dit, ne combattez pas ces personnes. Tel groupe était sorti, on a tué leur chef, voilà ce qui est arrivé. Tel autre qui a voulu faire, voilà ce qui est arrivé. Il dit, ne commettez pas l'erreur de combattre contre Dieu. Gamaliel, qui t'a poussé à dire ces choses? Pierre et les autres sont au loin. Ils ne savent ce qui se passe. Mais le Dieu de Mardoché défend leur cause. J'aime encore mon Seigneur, le vôtre. On veut l'arrêter avant le temps. On décide subitement de les traduire en justice. Mais là, dans les Sanhédrins, est suscité un avocat, Nicodème. Il commence lui-même à dire, est-ce que notre loi permet-il qu'on puisse arrêter quelqu'un sans l'avoir entendu? Le Dieu de Mardoché, c'est le Dieu qui s'occupe de vous. Il sait pour vous travailler sans vous, si simplement vous voulez être accroché à lui. Et la Bible ajoute que non seulement le roi prend connaissance de ces faits, mais le verset 3 dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il répondit, il n'a rien reçu. J'aime la suite. Et c'est là le troisième élément. Dieu fait que la bonne personne soit au bon endroit, au bon moment. Aman s'est réveillé très tôt. Il dit, même avant les festins, j'aimerais déjà voir le roi. Afin que ma potence puisse servir à quelque chose. Il est là, dans la salle d'attente. Il est là, dans la petite chambre. Il sait que dès que le roi aura fini, je vais rentrer. La Bible dit, au verset 4, alors le roi dit, qui est dans la cour? La Bible dit, Aman était venu dans la cour pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. De la maison du roi, un homme qui porte sac et cendre, tremble, pleure, depuis plusieurs jours, il n'a pas mangé. Il ne s'en remet qu'à Dieu. Oh Dieu, si tu ne fais rien, je suis fini. Là, dans la petite chambre, un homme en position de force, ayant même l'anneau du doigt entre ses doigts. Et quand on l'appelle, il dit, le jour de gloire est arrivé. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et il entre dans la cour du roi. La Bible dit, verset 6, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? La suite du verset dit, Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi que le roi voudra-t-il honorer? Puis ces derniers temps, il dit dans les secrets du roi, qui mange avec lui? Donc tout ceci, c'est sûrement pour moi. Qu'est-ce que tu sais? La suite du verset 10, c'est sur verset 7. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, c'est-à-dire ce qu'il porte. Et les chevals que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et les chevals à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. J'aime la suite au verset 10. C'est lui qui renverse les choses. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour qui? Pour Mardoché les Juifs. Il a cru mal entendre. Il a sûrement demandé, Excellence, tu as dit qui? C'est lui pour qui il avait préparé la potence est appelé maintenant à régner. Et non seulement à régner, mais celui qui voulait détruire, Dieu l'utilise pour servir celui qui passe devant et pour parler de son élévation. Le Dieu de Mardoché, il tient toutes choses entre ses mains. Il tient tout entre ses mains. Et j'aime comment le roi lui parle. Il dit, fais ainsi pour Mardoché qui est assis à la porte du roi. Et il dit, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ne néglige rien. Fais tout tel que tu l'as prononcé. J'aurais aimé être là voir la tête d'Aman. La Bible dit, Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché. J'aurais voulu être là. Et il les promena à cheval à travers la place de la ville. La Bible dit, il cria devant lui. J'aurais voulu entendre l'intonation de sa voix. Sûrement la voix était comme la mienne. C'est ainsi que tu as fait. Alléluia! Le Dieu de Mardoché, c'est le Dieu qui renverse les choses. Mardoché, revêtu des habits royaux. Mardoché, sur le cheval du roi, il croit rêver. Et cela me fait penser à ce passage qui dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. J'insiste, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des surprises. C'est le Dieu qui sait renverser le plan. Oh, mais ne crains rien. Ne tremble pas. Il a les derniers mots. Tu es le dos contre les murs, mais tu verras ce que mon Dieu, le Dieu de Mardoché peut faire. Et là n'est pas tout. Non seulement que Mardoché est élevé, mais Aman n'est pas non plus abaissé. Mais Aman n'est pas content. Mardoché rentre, il est content. Aman aussi. Et quand Aman vient plus tard demander audience, et là Esther prend ses responsabilités. La Bible nous dit qu'Esther prit la résolution de dévoiler son identité. Non pas au premier festin, mais au second. Elle a beaucoup de tact, Esther. Elle dit au roi, tu ne l'as jamais su, mais je fais partie de ce peuple que Aman veut détruire. Et il présente Aman et dit, voilà cet homme mauvais, voilà ce qu'il veut faire. Et écoutez ce que la Bible dit. Verset 7, du chapitre 7. Et le roi, dans sa colère, s'éleva et quitta les festins pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Mais j'aimerais revenir à quelque chose qui a été prononcé par la fameuse conseillère, la femme d'Aman. Quand Aman est rentré, déboussolé par tout ce qui s'est passé, le chapitre 6, Le verset 13 dit, Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zérek, sa femme, lui dirent, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber, j'aime les verbes qu'elle utilise. Il dit, cette chute, ce n'est qu'un début. Beaucoup d'autres chutes viendront après. Tu ne fais que commencer. La conseillère, c'est la cause de qui la potence existait. Elle a du coup une crise de lucidité. Une crise de sagesse. Elle voit plus clair et puis elle ajoute, il est de la race des Juifs. Tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Et c'est avec ces propos négatifs qu'Aman est allé. Et voilà, quand le roi est sorti plein de fureur, Aman commet l'erreur. Il devait supplier la reine. Mais la Bible dit que la reine s'est trouvée sur son lit. Peut-être couchée, je ne sais dans quelle position. Et écoutez ce que la Bible dit ensuite, verset 8. Lorsque le roi revint du jardin, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? La Bible dit, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi. Ces bois est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende, Aman. Aman ne savait pas quand il disait au menuisier, il faut bien raboter là. J'aimerais bien voir Mardoché pendu, le Dieu des cieux rier, les grands stratèges se moquer, parce qu'il est celui qui renverse le plan des hommes. Et la Bible ajoute, verset 10, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Et cela n'est pas tout. Non seulement qu'Aman est pendu, non seulement que Mardoché est élevé, mais voilà Mardoché ainsi qu'Esther viennent parler au roi pour que l'on révoque l'édit qui est en suspension. Et le roi accepte cela. Et quand cela a été accepté, quelque chose de fabuleux se passe. Et nous terminons par là. Esther chapitre 8, du verset 15 au verset 17. La Bible dit, Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. J'aime le verset 16. Il n'y avait pour les Juifs quatre choses, que bonheur, joie, allégresse et gloire. Mardoché, Aman te dérange, Aman croit te détruire, mais j'aimerais te dire, mon Dieu, te réserve ces quatre choses. Le Dieu que tu sers, le Dieu sur qui tu t'appuies, il te réserve ces quatre choses. Bonheur, joie, allégresse et gloire. Et écoutez la fin. La Bible dit, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. J'aime la fin. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent des Juifs. Être juif était impopulaire. Mais voilà, Dieu renverse les choses. Tout se commence à dire, Nazam ou Yuda. Nazam Yuda, de quoi Mardoché. Tout le peuple du pays se firent des juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. Le Dieu de Mardoché, c'est le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable qui va renverser cette cause dans laquelle tu es parti prenant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Moto yamakasi oyo. Simbabo moinanga. Opango yamakasi. Et batelangai. Yesu Masiyai.
Yesu Masiya.
Le Dieu de Mardoché, c'est ton Dieu. Quelle est la cause derrière laquelle tu cours? Quel Haman veut te détruire? Qui sont les Haman de ta vie qui te poussent le dos contre le mur? Quels sont les ennemis qui ne jurent que par ta perte? Qui sont ceux qui ont fait de ta perte leur joie? Qui sont ceux qui ont fait de ta perte leur objectif? Là au travail, là à l'école, là à l'université, là en famille, le Dieu des Mardoché, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Le Dieu des Mardoché, c'est ton Dieu. Le Dieu des sans appui. Le Dieu des sans force. Chantons-les encore avec conviction. C'est lui mon soutien. C'est lui mon appui. Avec lui qu'ai-je à craindre? Avec lui qu'ai-je à craindre? Yo Elonganangai. Le Dieu de Mardoché. Le Dieu de Mardoché. Otoyamakas. Otoyamakas. C'est lui mon bouclier. C'est lui mon refuge. C'est lui ma haute retraite. Yesu Masia.
Yesu Masia.
Yo Elonganangai.
Yo Elonganangai.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.